Ladies and gentlemen, the President of the United States.
Presidency.
Mr. President.
President.
On dit du président des États-Unis qu'il est l'homme le plus puissant du monde, qu'à lui tout seul, il peut faire chavirer la planète depuis son bureau ovale. Tout l'été, sur France Inter, c'est là que nous vous emmenons, à la Maison Blanche, à la rencontre de 8 présidents américains face à l'exercice du pouvoir. Vous ferez connaissance avec des hommes brillants, des fades, des vulgaires, de grands stratèges politiques, des indécis. L'histoire a presque oublié certains d'entre eux, d'autres ont encore leur visage sur les billets de banque. Mais ils ont un point commun. En incarnant à un moment l'histoire de leur pays, ils ont aussi bouleversé l'histoire de la fonction présidentielle. Chacun de ces hommes, à sa manière, nous dit aussi qui est l'actuel président des États-Unis, Donald Trump.
Presidents, ces présidents qui racontent l'Amérique. Mr. President. Fabienne Saintès, sur France Inter.
Aujourd'hui, épisode 2, James Buchanan, désastre politique à la Maison Blanche. Lorsqu'il devient président des États-Unis en 1857, James Buchanan a une mission à remplir. Il doit préserver l'Union. Elle est en train de tanguer sous la pression des États du Sud qui entendent se battre pour la préservation de l'esclavage et ceux du Nord, États abolitionnistes qui veulent, eux, veiller sur leur industrie en plein développement. Buchanan ne saura jamais ni trancher ni apaiser. Il se laissera chahuter par les deux camps, un jour affirmant sa détestation de l'esclavage, un autre donnant des gages aux esclavagistes. L'Amérique d'alors étend un peu plus ses territoires, s'étire vers l'ouest. San Francisco a déjà été transformé par la ruée vers l'or. Et Buchanan à Washington marche au bord du précipice. Il donnera à son successeur les clés d'une Amérique qui ne peut plus éviter la guerre. Il reste aujourd'hui, aux yeux des Américains, comme l'un des pires présidents de l'histoire. Il a aussi bien failli être le dernier président des États-Unis d'Amérique. Bonjour Corentin Célin.
Bonjour.
Historien spécialisé dans l'histoire des États-Unis, vous nous accompagnez dans cette traversée américaine à travers les présidents qui ont changé la présidence des États-Unis. En voilà un sacré numéro, Corentin, ce James Buchanan. Et en effet, quand on interroge aujourd'hui les Américains, au moins les historiens américains, sur les pires présidents de l'histoire, ils citent parfois déjà Donald Trump et, invariablement, James Buchanan.
Oui, James Buchanan est toujours le dernier président dans les classements qu'affectionnent les politistes états-uniens qui font des études comparatives régulières pour évaluer les présidents, car Buchanan est associé indubitablement à la guerre civile, la guerre de sécession qu'il n'a pas su éviter. Ce qui est très paradoxal pour cet homme qui était très expérimenté au moment de son arrivée au pouvoir et a raté complètement sa présidence. Et aujourd'hui, il sert en effet de maître étalon pour ceux qui pensent que Donald Trump, à son tour, est en train de dissoudre l'Union.
Alors, ce qui est intéressant chez Buchanan, et c'est ce qu'on verra, c'est un homme incapable d'une décision tranchée, ce que détestent les Américains.
Oui, c'est vrai que ce qui caractérise sa présidence, mais pas seulement, aussi toute sa vie politique, où il a changé de parti, où il a été partisan de Jackson tout en s'opposant à lui. C'était un homme qui avait déjà fait preuve d'indécision, de louvoiement, ce qui peut être une qualité dans la vie politique quotidienne, mais qui, une fois président, ne pardonne pas. Et son incapacité à trancher dans le sens de l'histoire lui coûte extrêmement cher.
Ça veut dire mieux vaut une mauvaise décision que pas de décision du tout. Et là, pour le coup, ça parle à nouveau à l'Amérique contemporaine.
C'est vrai que si on compare à Donald Trump, on a pu lui reprocher assez souvent, malgré son affichage très viril, très masculin, de décisions rapides et puissantes, on lui a souvent reproché de ne pas savoir trancher ou de ne pas savoir agir. Et c'est un trait de caractère qu'on retrouve effectivement chez James Buchanan.
Corentin Célin, à tout de suite. On se retrouve au milieu de ce récit. James Buchanan, désastre politique à la Maison Blanche. Un récit documentaire écrit par Adrien Cara, assisté de Rebecca de Nantes, réalisation Fabrice Laigle. Jeudi 5 mars 1857, Washington, salon de la Maison-Blanche. Il commence à se faire tard. Voilà plus de 2 heures qu'à la lumière des chandeliers, George Ely peaufine le portrait du 15e président des États-Unis. Il y a peint tous les grands hommes de son époque. Il a vu passer sous son pinceau toute la lignée des présidents depuis John Quincy Adams. Pour James Buchanan, il a choisi de mettre son modèle debout, la main posée sur une carte, les cheveux légèrement en bataille, le cou enfoncé dans le col d'officier de sa chemise blanche. Il a l'air bon vivant, cet homme de 65 ans, si l'on en croit la taille de son estomac. On dit aussi qu'il tient très bien l'alcool. Il a également la réputation d'un homme intègre jusqu'au détail. Écoutez comment le décrit Jean-Luc Hesse, l'ancien correspondant de France Inter aux États-Unis, dans son livre « La saga de la Maison Blanche ».
Buchanan, à sa manière, est un gentleman d'antan. Un défaut à l'œil le contraint à lever la tête en permanence lorsqu'il s'adresse à autrui, ce qui lui donne une allure de vieil aristocrate. Mais entendons-nous bien, c'est pour autant un homme d'une extrême probité. Lorsqu'un de ses fournisseurs de la Maison Blanche présente une note à laquelle il manque 3 cents, le président s'empresse de rectifier l'erreur, car il se sent comme comptable des deniers publics. Une chose mérite d'être soulignée. S'il s'intéresse, dès sa prise de fonction, aux petites choses qui font la vie du pays, c'est probablement pour ne pas voir les nuages qui se cachent derrière.
Lorsqu'il arrive à la Maison Blanche, James Buchanan connaît comme sa poche l'administration fédérale et la politique à Washington. Il a occupé à peu près tous les postes, au point qu'on le surnomme « le vieux fonctionnaire ». 10 ans à la Chambre des représentants, 10 ans au Sénat, 5 ans comme ambassadeur en Russie et en Grande-Bretagne. James Buchanan a aussi été pendant 4 ans secrétaire d'État, donc ministre des Affaires étrangères. Il est originaire de Pennsylvanie, un état du Nord. Il vient d'une famille modeste, des fermiers d'origine irlandaise. Buchanan a fait des études de droit et puis il s'est engagé très jeune dans les régiments volontaires avec lesquels il a participé à la Seconde Guerre d'indépendance. À son retour, auréolé de gloire militaire, il se fait élire représentant à la Chambre locale de Pennsylvanie. Il a tout juste 23 ans. À cette époque, son étiquette, c'est fédéraliste. Et les fédéralistes veulent que l'Union soit plus forte que les États fédérés. Ce sont les lointains ancêtres du Parti républicain de Lincoln. Pour Buchanan, c'est le début d'une carrière politique qu'il veut prometteuse. Et assez vite, il comprend que ça n'est pas dans ce camp-là qu'il ira le plus haut. Il choisit donc de tourner kazakh et de devenir démocrate. Le parti fondé par Andrew Jackson est mieux structuré. C'est lui qui domine la vie politique après 1824. Il portera donc mieux ses ambitions. Et en effet, en novembre 1856, James Buchanan remporte le scrutin avec une belle avance. Mais la campagne a été épouvantable, gangréné de bout en bout par la question de l'esclavage et par une loi votée 2 ans avant, la loi Kansas-Nebraska, disant que désormais, chaque État entrant dans l'Union pourra choisir librement s'il autorise l'esclavage sur son territoire ou pas. Le Kansas, justement, est en train de se déchirer pour trancher. Jusque-là, la question des Noirs reposait sur un compromis fragile, le compromis du Missouri qui laissait au Congrès le soin d'arbitrer afin de préserver un juste équilibre dans l'Union entre États abolitionnistes et esclavagistes. Cette fois, les candidats sont sommés de choisir, de prendre position et Buchanan louvoie, s'arrange pour ménager les deux camps, puis finit par dire que rien ne doit entraver l'expansion du pays ni son développement mercantile et industriel. Fermez les guillemets. Le Sud y voit une carte blanche pour les États esclavagistes. Buchanan a besoin des voix du Sud. Il les gagne, mais le Sud ne manque pas de lui glisser à l'oreille que s'il est élu, c'est bien grâce à ces voix-là. Et voici ce que ça donne dans la bouche d'un juge de Virginie juste après l'élection.
Monsieur Buchanan et les démocrates du Nord sont désormais tributaires du Sud. Si nous pouvons nous imposer au Kansas, maintenir le tarif douanier au plus bas, nous arracher à notre dépendance commerciale vis-à-vis du Nord et agrandir encore un peu le territoire esclavagiste, peut-être pourrons-nous encore vivre sous la bannière étoilée.
C'est peu dire que rien n'est réglé, James Buchanan va le comprendre alors qu'il n'a pas encore déballé ses cartons à la Maison Blanche.
Dernière édition de l'Evening Star. À la une ce midi, les honorables juges de la Cour suprême des États-Unis viennent de trancher dans l'affaire Dred Scott, mettant ainsi fin à plus de 11 ans d'une procédure fleuve qui avait connu plusieurs rebondissements. L'esclave Dred Scott a été débouté de sa demande. Sa liberté lui est refusée. Il devra continuer de servir un maître jusqu'à sa mort.
Vendredi 6 mars 1857, James Buchanan est président des États-Unis depuis deux jours seulement, quand la Cour suprême rend son arrêt dans l'affaire Dred Scott. Une affaire qui passionne autant qu'elle empoisonne l'Amérique depuis bientôt 11 ans. Dred Scott est un esclave originaire du Missouri. Il a été vendu très jeune à un médecin militaire qui, au cours de sa carrière, l'a emmené avec lui au gré de ses affectations, y compris dans les États où l'esclavage est illégal, l'Illinois par exemple, ou le territoire du Wisconsin. À la mort de son maître en 1843, Dred Scott réclame sa liberté et celle de sa famille. Il entend faire valoir qu'avoir vécu dans ces états anti-esclavagistes fait de lui, de fait, un homme libre. Pendant les audiences, de nombreux témoins viennent affirmer que Dred Scott a été toute sa vie, ouvrez les guillemets, un nègre d'une parfaite servitude à l'égard de ses propriétaires et qu'il pouvait donc prétendre à finir ses jours hors de toute contrainte. Mais par 7-2, les juges de la Cour suprême en décident autrement. Les mots du président de la Cour dans son arrêt sont implacables. Un esclave, quel qu'il soit et quel que soit l'état dans lequel il se trouve, n'est pas un citoyen américain et il ne possède donc aucun droit qu'un blanc fût tenu de respecter. La Cour suprême vient de faire voler définitivement en éclats le déjà très abîmé consensus du Missouri. Le gouvernement fédéral n'a donc aucun pouvoir sur la réglementation de l'esclavage. Dred Scott est bien un esclave, il le reste, il devra servir un nouveau maître. Les États du Sud, l'Alabama, le Tennessee, le Mississippi, qui emploient la très grande majorité des esclaves dans leurs champs de coton, jubilent. Les États du Nord, la Pennsylvanie, l'Ohio, l'Illinois et d'autres, crient au scandale. S'il fallait un détonateur avant la guerre civile, il est là.
Si les faits sont le vrai sujet, alors il faut bien dire qu'il n'y a ni droit ni justice dans l'esclavage. Mais vous soulevez une question intéressante. Quel droit avez-vous donc d'avoir vos nègres ? Fondamentalement, j'entends.
Quel droit, vous dites ? J'ai payé. Ils sont à moi.
Bien sûr. Et la loi vous autorise à posséder un nègre. Malheureusement, c'est un mensonge éhonté. Supposons qu'on édicte une loi qui retire votre liberté, qui fait de vous l'esclave. Simple supposition.
Supposition insupposable.
Les lois, ça change. Les vérités universelles, elles, sont constantes. Or, la vérité... La pure et simple vérité, c'est que ce qui est juste pour l'un est juste pour tous. Noir ou blanc, sans distinction. Écoutez-moi, Ebbs. Ces nègres sont des êtres humains. S'ils sont ravalés au rang de bestiaux, les hommes comme vous auront à en répondre. C'est une maladie, monsieur Ebbs. Un mal effroyable qui s'est abattu sur cette nation. Et le jour du jugement viendra.
Vous adorez vous écouter parler. Jamais vu un homme s'écouter autant que vous. Vous feriez croire que blanc, c'est noir. Noir, c'est blanc. C'est bien sympathique si on vit au milieu des Yankees à Boston.
Si l'affaire Dred Scott met le Congrès sans dessus-dessous, elle va aussi avoir des conséquences désastreuses pour la Maison-Blanche. Car voici qu'on découvre des lettres, envoyées aux juges de la Cour suprême un mois avant leur décision. Ces lettres demandent aux juges de rendre un arrêt qui dépassera le cas particulier de l'affaire Dred Scott. Elles font pression sur les sages pour qu'ils ouvrent grand à chaque État le choix de l'esclavage. Et qui est l'auteur de ces lettres ? Eh bien, on découvre que c'est James Buchanan lui-même. Parmi ceux qui dénoncent un scandale d'État, il y a un représentant du Parti républicain. Il s'appelle Abraham Lincoln.
Une maison divisée contre elle-même ne peut rester debout. Notre système politique ne saurait perdurer en continuant d'être mi-esclavagiste, mi-libre.
Buchanan aurait pu prendre une décision politique sur l'esclavage, ce qui impliquait forcément de se mettre à dos l'une ou l'autre des parties. Il a choisi de se défausser en se cachant derrière la Cour suprême, ce qui avait l'avantage de maintenir l'esclavage quand les États le souhaitaient, sans se salir les mains. La manœuvre est complètement ratée, la situation est en train de devenir incontrôlable. Pendant ce temps, l'Amérique bouge. Quelques semaines plus tard, bien loin de ces scènes politiques à New York, le jeune pays offre au monde un tout autre visage. À Manhattan, dans un magasin de porcelaine et de verrerie française, Elisha Otis inaugure devant une foule immense de journalistes et d'invités le tout premier ascenseur du monde. Grâce à un mécanisme astucieux et d'une centrale vapeur, il est désormais possible de monter en haut d'un bâtiment de 5 étages sans le moindre effort. Ce premier ascenseur, à lui seul, est le symbole de la toute-puissance industrielle des États-Unis, capable alors d'une innovation technique que beaucoup considèrent sans limite. Tout le paysage architectural et urbain est bouleversé par cette machine à vapeur qui monte et qui descend. L'ascenseur va permettre d'imaginer des immeubles toujours plus hauts. Bientôt, on construira des tours de 10 étages et moins d'un siècle plus tard, les premiers gratte-ciel. James Buchanan n'aura guère l'occasion de mettre cet élan industriel sur le compte de sa politique. Au mois d'août 1857, toujours à peine installé, l'économie américaine s'effondre et entre dans l'une de ces crises financières majeures et cycliques si courantes au 19e siècle. À la bourse de New York, qui est déjà installée à Wall Street, la panique s'empare des marchés, plusieurs grandes banques régionales se déclarent en faillite. Les principaux déclencheurs de cette crise financière sont d'abord la baisse brutale des exportations agricoles des États-Unis vers l'Europe. La guerre de Crimée là-bas vient de se terminer, donc les productions locales reprennent. L'autre facteur, c'est l'éclatement de la bulle spéculative formée autour des entreprises de chemin de fer qui ne construisent pas assez de lignes pour être rentables. Cette crise va plomber la totalité du mandat présidentiel. Buchanan ne pourra donc même pas compter sur le dynamisme économique pour faire oublier ses errements politiques. Il n'a d'ailleurs pas le temps de souffler. Après le Sud, c'est dans l'Ouest qu'une autre crise vient chahuter la présidence.
Le moment est venu de traduire les annales. Pierre, Jacques et Jean ont rétabli les clés d'une nouvelle dispensation de l'évangile de Jésus-Christ.
Quand les autres seront-elles prêtes à être imprimées ?
Celles-ci sont presque...
Les annales ont été traduites par le don et le pouvoir de Dieu et publiées sous le titre « Le Livre de Mormon ». Il témoigne au monde entier que Jésus est le Christ.
La vengeance m'appartient, dit le Seigneur. Obéissez-lui, ou vous risquez sa terrible indignation.
Nous voilà à plus de 3000 km à l'ouest de Washington, dans l'un de ces nouveaux territoires conquis par l'Union, la ville de Salt Lake City. Cernée par les montagnes, le désert et un grand lac salé, Salt Lake City est le point de passage des diligences et des trains de marchandises. C'est surtout devenu la capitale des Mormons. Cette nouvelle église, emmenée par Joseph Smith, est née dans l'est de New York et elle a été chassée ces 30 dernières années de tous les lieux où elle a tenté de s'implanter. L'Ohio, le Missouri, l'Illinois, elle a fini par arrêter sa route dans l'Utah, au milieu de rien, et a grandi toute seule. Les Mormons ont leur lecture des textes, leurs livres, leur culte, leur communauté. Ils créent leur territoire et leur constitution. Ils n'obéissent qu'à leurs lois. Washington regarde d'abord ces Mormons avec beaucoup de condescendance. Mais leur refus de suivre et d'appliquer les règles fédérales finit par inquiéter la Maison-Blanche. James Buchanan déclare l'état de rébellion dans le territoire de l'Utah et envoie les troupes pour y installer un gouverneur non-mormon, Alfred Cumming, en 1857. Les Mormons bloquent les entrées de Salt Lake City, leur milice prend les armes au plus fort de ce conflit qui durera plus d'un an. L'attaque d'un convoi de colons venus du Kansas et qui cherchait à rejoindre la Californie fait 125 morts. Cette guerre de l'Utah n'ira pas beaucoup plus loin. Washington et les Mormons finissent par négocier. La Maison-Blanche pardonne et reconnaît l'Église. Les Mormons acceptent d'abandonner le gouvernement du territoire à Cumming tout en gardant la main sur Salt Lake City. Une simple parenthèse donc, mais qui, une fois de plus, au sud comme à l'ouest, renvoie l'image d'une union décidément bien fragile que James Buchanan ne sait pas tenir. Corentin Célin, nous allons reprendre le fil du récit dans un instant. Évidemment, je voudrais qu'on s'arrête juste une minute au stade où nous en sommes là avec ce pauvre James Buchanan. On a envie de dire quand ça veut pas, ça veut pas. En gros.
C'est effectivement cela. James Buchanan, sa présidence, au bout de 2 ans à peine, est déjà morte. Il y a évidemment l'arrêt de Red Scott qui lui porte un coup fatal au bout de 2 jours de présidence, puisque, comme on l'a vu, cela relance de manière définitive la controverse sur l'esclavage entre Nord et Sud, avec désormais 2 pays qui se font face. Par ailleurs, il y a des ferments de désunion, y compris dans les territoires les plus à l'ouest comme l'Utah. Et donc, on voit un président incapable d'incarner l'union, de tenir cette union. Et dès 1858, les États-Unis et la population des États-Unis regardent ailleurs. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'elle s'intéresse de très près à une élection qui a lieu en Illinois pour le poste de sénateur entre 2 hommes dont on sait déjà qu'ils seront l'un ou l'autre le probable successeur de Buchanan. C'est Stephen Douglas, le démocrate, et Abraham Lincoln, le républicain.
Et on y viendra d'ailleurs à ces joutes oratoires, même entre ces 2 hommes. Est-ce qu'il a réalisé, James Buchanan, Corentin Célin, qu'il est en train d'envoyer l'Amérique à la guerre de sécession? Est-ce qu'il se rend compte qu'il le creuse, ce fossé qui sépare les Américains?
Non, parce que il faut rappeler que Buchanan n'était pas un fervent esclavagiste. En fait, lui, ce qui le dérangeait, c'était au contraire la position des abolitionnistes qu'il considérait, et y compris les républicains qui ont été fondés en 1854, comme des extrémistes. Et il les voyait, eux, comme des menaces pour l'Union, parce que il les considérait, eux, comme les agresseurs et les États du Sud comme des agressés. Et c'est pour cela que Buchanan se porte comme le défenseur des droits des États esclavagistes, donc des États du Sud, en plus évidemment du gain politique que cela lui a apporté en 1856. Mais il est prisonnier de cette vision évidemment erronée. Il est incapable de voir que les républicains et les abolitionnistes se battent pour un principe bien plus universel que de la simple tambouille politique. Et prisonnier de cette représentation-là, il est incapable de la dépasser pendant toute sa présidence.
Et puis il y a juste une dernière chose rapidement. Buchanan avait annoncé de toute façon qu'il ferait qu'un seul mandat. Quand on voit la manière dont la présidence commence, au fond, tout ce qu'on cherche, c'est lui trouver un successeur, et puis le reste n'a plus d'importance, en fait.
Oui, c'est assez amusant d'ailleurs, parce que c'est une annonce qu'il fait lors de son discours d'investiture, en mars 1857. Il dit qu'il ne fera qu'un mandat, ce qui aurait pu être un formidable levier politique, montrant son désintéressement, mais évidemment, au vu de l'échec, cela renforce cette sensation d'avoir un président qui n'est déjà plus aux manettes alors qu'il est encore à la Maison-Blanche. Et dès 1858, on peut estimer que Buchanan est passé par pertes et profits par l'ensemble du personnel politique et même de la population.
Le fil du récit reprend dans un instant avec vous, Corentin Célin. James Buchanan, vous allez le voir, n'est pas au bout de ses peines.
treats me oh so mean. My man, he don't love me, treats me awful mean. He's the lowest man that I've ever seen. And gamble, make you stay out all night long. Love will make you drink and gamble, make you stay out all night long. Love will make you do things that you
turns off and on. Love
is like a faucet. It turns off and on. Sometimes when you think it's only there, it has turned off and gone.
President, Fabienne Sintès sur France Inter.
Aujourd'hui est un grand jour pour le monde. Aujourd'hui est le jour où l'Europe et l'Amérique, deux continents séparés par un océan, sont désormais unis grâce à la télégraphie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix et bonne volonté aux hommes sur terre. Que l'amitié entre nos peuples triomphe toujours des querelles d'antan.
Il est un peu plus de 18h lorsque le président des États-Unis, James Buchanan, fait dicter à sa secrétaire le tout premier message à être envoyé par le câble télégraphique transatlantique. La destinataire de ce câble, c'est la reine Victoria d'Angleterre, à plus de 6000 km dans son palais londonien. Grâce à ce dispositif technique unique au monde, un câble sous-marin reliant l'Irlande à l'île de Terre-Neuve, l'Amérique et le Royaume-Uni peuvent désormais converser en direct. Enfin presque, il faut quand même une bonne demi-heure pour recevoir une réponse à un message. Quoi qu'il en soit, la prouesse technologique est bien là, la diplomatie internationale en est évidemment transformée et l'Amérique est enthousiaste. L'événement est largement relayé dans la presse dès le lendemain, à Boston, Philadelphie, Washington, New York, les gens sortent dans les rues, organisent des parades même, accrochent à leurs fenêtres la bannière étoilée. New York tire 100 coups de canon et fait sonner les cloches des églises. James Buchanan savoure, il a intérêt, l'Amérique ne va pas rester longtemps euphorique. La question de l'esclavage, encore elle, n'a pas été réglée et alors que Buchanan essaie de profiter encore un peu de l'enthousiasme autour de ce nouveau télégraphe, le pays suit avec passion le duel de deux candidats pour le poste de sénateur de l'Illinois. Le démocrate Stephen Douglas, esclavagiste, et le républicain Abraham Lincoln, opposé à l'esclavage, mais qui affirme tout de même être moralement opposé à l'égalité entre les hommes noirs et les hommes blancs, fermez les guillemets. Les joutes oratoires entre les deux hommes, qui parfois durent plus de 3 heures, sont un vrai spectacle. Elles attirent des milliers de personnes et sont retranscrites dès le lendemain dans les journaux du pays.
Laissons chaque État s'occuper de ses propres affaires. Et cette République peut exister pour toujours, divisée en États libres et en États esclavagistes.
Nous ne permettrons pas l'extension de l'esclavage à un quelconque État. Nous ne permettrons la sécession d'aucun État. Par-dessus tout et avant tout, l'Union doit être préservée.
C'est dans ce contexte qu'à l'automne 1859, une petite ville au pied des Appalaches en Virginie va devenir malgré elle le symbole de la question de l'abolition. Harper's Ferry, où se croisent le fleuve Potomac et la rivière Shenandoah, est d'ordinaire un endroit très tranquille. Mais par une nuit du mois d'octobre, profitant de l'obscurité, un groupe d'hommes masqués s'empare du bâtiment de l'arsenal fédéral. Ils dérobent armes et munitions, traversent la ville à cheval, torches à la main, ils hurlent aux habitants de sortir de chez eux. Une fois la ville rassemblée, le chef du commando, un individu du nom de John Brown, explique qu'Harper's Ferry est désormais pris en otage et il appelle tous les esclaves à se révolter contre leur maître. John Brown est un drôle de personnage. Avec ses hommes, 3 ans avant, il a tué 5 colons esclavagistes à coups de sabre. Pour les uns, c'est un fervent abolitionniste, pour les autres, c'est un fou. Lincoln lui-même le juge fanatique, James Buchanan, lui, le voit comme un fauteur de troubles et un dangereux activiste dont il faut se débarrasser. Le président est pressé par son cabinet, majoritairement sudiste. La situation à Harper's Ferry est incontrôlable. Buchanan envoie donc l'armée fédérale et donne aussi son feu vert aux milices de planteurs de Virginie pour mater l'insurrection. Très vite, c'est le chaos. Les troupes fédérales tirent sur tout ce qui bouge. Dans la confusion, elles finissent même par se tirer les unes sur les autres. Après 3 jours de fusillades désordonnées, le général Robert Lee, futur général en chef des armées des États confédérés, décide de donner l'assaut. Il entre dans Harper's Ferry, il blesse et il arrête John Brown. Bilan de l'épisode, 12 morts et plusieurs dizaines de blessés. Brown est très vite jugé. À la barre, il se présente comme un anti-esclavagiste radical. Il est condamné à mort et pendu le 2 décembre 1859. Avec lui meurt le dernier espoir de réconciliation entre Nord et Sud. L'affaire a un tel écho qu'en Europe aussi, on s'interroge et on s'inquiète sur ce qui est en train de se jouer aux États-Unis. En témoigne cette lettre de Victor Hugo qui, depuis son exil de Guernesey, tente d'obtenir la grâce du condamné et écrit à la presse.
Il serait possible que le supplice de Brown consolidât l'esclavage en Virginie, mais il est certain qu'il ébranlerait toute la démocratie américaine. Vous sauverez votre honte, mais vous tuerez votre gloire. Oui, que l'Amérique le sache et y songe. Il y a quelque chose de plus effrayant que Caïn tuant Abel. C'est Washington tuant Spartacus.
Le mois suivant, en janvier, à l'occasion du discours annuel sur l'état de l'Union, le président Buchanan réagit lui aussi à la mort de John Brown. Mais au lieu de calmer le jeu et d'appeler à l'unité de la nation, Buchanan explique qu'il comprend la crainte des États du Sud face aux révoltes d'esclaves. Et il ajoute même « Si la paix des foyers dans ces États du Sud était anéantie, si les maires de ces régions ne pouvaient plus dormir sans la terrible appréhension de mourir ou de voir mourir leurs enfants au petit matin, il sera vain de raconter à ces gens les bénéfices politiques résultant de l'Union. Le président américain vient d'ouvrir la porte à ce que les États du Sud projetaient depuis des années, la sécession. Alors que le président Buchanan se débat pour terminer son mandat calamiteux dans le camp opposé, chez les Républicains, un homme s'impose donc, il sera le prochain candidat pour les élections de 1860. À 50 ans, Abraham Lincoln incarne une nouvelle ambition pour le pays, il entend agir là où Buchanan n'a pas osé intervenir. Augmentation des tarifs douaniers pour stimuler l'industrie, concessions gratuites octroyées aux pionniers de l'Ouest, construction d'un chemin de fer vers le Pacifique et surtout... Lincoln, l'abolitionniste, est d'abord un unioniste. Il entend défendre l'unité du pays. Buchanan ne se présente pas à sa réélection. Il avait prévenu, le camp démocrate est de toute façon divisé sur l'esclavage. Abraham Lincoln devient le nouveau président des États-Unis. Les États du Sud, qui avaient menacé de faire sécession si Lincoln était élu, ne tarderont pas à tenir parole. C'est la Caroline du Sud qui saute le pas la première, le 20 décembre 1860, suivie par 6 autres États. Le nouveau président n'est même pas encore en fonction et c'est donc à James Buchanan qu'on apprend d'abord la nouvelle. Un Buchanan dépassé qui ne sait pas comment réagir. L'Amérique va bientôt entrer dans 4 ans d'une guerre civile dont elle porte aujourd'hui encore le fardeau. En saluant Lincoln, qui prend sa place en mars 1861, Buchanan dira « Cher monsieur, si vous êtes aussi heureux en pénétrant dans cette maison que je le suis en la quittant, alors vous êtes l'homme le plus heureux de l'univers. »
Presidents, ces présidents qui racontent l'Amérique sur France Inter.
President of the United States.
Presidents, ces présidents qui racontent l'Amérique. Fabienne Saintès.
James Buchanan, désastre politique à la Maison Blanche. Corentin Célin, faisons notre petit exercice habituel sur l'échelle de Trump, donc qui va de 0 à 10, très ressemblant par rapport au président actuel ou très lointain. Où situez-vous, James Buchanan?
Pour l'instant, on peut donner un 6 sur 10, mais qui pourrait très vite être une note supérieure dans la ressemblance, car l'angoisse, je pense, pour Donald Trump, au vu de la controverse permanente qu'engendre sa présidence, est d'être un jour jugé par l'histoire et la postérité comme l'est Buchanan aujourd'hui, c'est-à-dire comme un président qui amena l'Union à une situation de crise majeure et presque sans retour.
Alors, puisqu'on est dans les comparaisons, moi, il y a une chose qui m'a frappé dans dans le récit, après l'épisode d'Harper's Ferry, on attend de James Buchanan qu'il fasse un discours rassembleur, il en est incapable. Est-ce qu'on le compare là à l'incapacité de Donald Trump à faire un discours rassembleur après Charlottesville en 2017 par exemple, sa même incapacité à faire un discours rassembleur dès le début des manifestations raciales autour de George Floyd?
Justement, ce qu'on peut trouver comme point de comparaison, évidemment, en se rappelant que ce sont des époques différentes, bien entendu, c'est que Buchanan était prisonnier de son choix idéologique de s'appuyer uniquement sur les pro-esclavagistes du Sud et sur ce parti démocrate devenu le parti d'esclavagisme, et qu'il cherchait davantage à plaire à tout prix à cette base, plutôt que dans une période de tension extrême, à rassembler et à jeter des ponts vers l'opposition. Et en cela, effectivement, ça nous fait penser à Trump, qui ne gouverne quasi exclusivement que pour sa base, et ne jette jamais de pont vers l'opposition, qu'il cherche tout le temps à délégitimer. Et effectivement, à plusieurs reprises, Buchanan a choisi en quelque sorte davantage son parti que sa patrie. Et c'est ce qui amène finalement à l'implosion de la nation états-unienne en 1860-61.
Mais est-ce que, pour Buchanan comme pour Trump, est-ce que c'est parce qu'il ne sait pas ou parce qu'il ne voit pas ce qui est en train de se passer?
Alors, justement, le futur de Buchanan peut donner une réponse, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, une fois retiré, il reste unioniste. Il soutient l'Union, il ne devient pas confédéré, il ne soutient pas le Sud. Mais ce qui était complètement aberrant par rapport aux choix politiques qu'il n'avait cessé de faire pendant sa présidence, où il n'avait jamais arrêté de soutenir le Sud esclavagiste. Et d'ailleurs, après la fin de sa présidence, c'est ce qui lui est énormément reproché. On lui dit, mais vous vous dites unioniste maintenant alors qu'on est en guerre, alors que votre soutien aveugle aux démocrates esclavagistes du Sud a amené cette guerre. Et donc, on peut supposer effectivement une cécité par rapport à ce qui était en train de se passer.
Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas de logique d'antagonisme. Est-ce que c'est une différence avec Donald Trump quand on souffle sur les braises comme ça? C'est qu'il y a une vraie logique d'antagonisme, qu'on entend créer cet antagonisme?
Oui, certes. Alors, c'est effectivement, ce serait une différence, c'est que chez Buchanan, il y a une forme de après sa présidence, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il écrit un livre pour se justifier, pour essayer d'expliquer. Il y a une forme d'incompréhension parce que pour lui, il cherchait à garder un équilibre, mais comme il pensait que les républicains abolitionnistes de Lincoln en particulier étaient l'ennemi, que c'était eux les perturbateurs, ça l'amenait forcément à privilégier les démocrates esclavagistes, et donc il n'a pas compris qu'en faisant cela, il se faisait l'allié objectif, peut-être pas intentionnel, en effet, c'est une différence, mais il se faisait l'allié objectif de ces esclavagistes du Sud.
Est-ce qu'il y a une géographie qui vous semble similaire aujourd'hui, si on compare avec cette géographie de Buchanan à la veille de la guerre civile, avec un vrai Nord-Sud?
Alors, elle serait aujourd'hui ce qu'on appelle aux États-Unis ce sectionnalisme est différent aujourd'hui parce que déjà le territoire est beaucoup plus étendu, mais de fait, il y a aujourd'hui, dans ce repli permanent de Trump sur un socle très restreint, il y a aussi une dimension géographique. Aujourd'hui, le pays de Trump, c'est en grande partie le Sud profond, ce Sud autrefois esclavagiste, puis ségrégationniste, et qui est vraiment le cœur de son soutien et qui lui reste indéfectiblement attaché.
Contrebalancé peut-être par les grandes villes, là pour le coup, ce qui ne devait pas être le cas au moment de Buchanan.
Justement, c'est aujourd'hui en cela que c'est beaucoup plus varié, parce qu'aujourd'hui ça recoupe bien entendu aussi une division ruralité fait métropolitain dans l'opinion politique. Mais de fait, ça peut un peu forcer la comparaison, parce que c'est vrai qu'on reste aujourd'hui, on voit que Donald Trump excite beaucoup cet antagonisme entre des États du Sud conservateurs, dans lesquels ils seront très souvent d'ailleurs en meeting, et pour lesquels, on le voit, il a une prédilection.
Il a complètement disparu, James Buchanan. C'est assez étonnant. C'est un président que, spontanément, on a un mal fou à citer. Je ne sais pas s'il y a des re-Buchanan quelque part, sauf à Washington probablement, puisqu'ils y sont tous, mais je ne sais même pas s'il y a une statue ou quelque chose de ce genre. Est-ce qu'il a été oublié? Est-ce qu'il a été jeté par l'histoire américaine?
Absolument. Et tout de suite. Non seulement le Congrès a refusé de payer le portrait qu'il avait commandé du président, mais il a été victime pendant la guerre de manifestations d'hostilité très très fortes. On le représentait en pendu avec la mention Judas parce que on considérait qu'il avait trahi l'Union. Et ces représentations avaient été même retirées du Congrès. Donc effectivement, il y a eu un rejet immédiat qui explique d'ailleurs pourquoi il a voulu faire ce livre de confession, justification à la fin de la guerre de sécession, et qui n'a pas du tout marché, bien sûr, parce que il n'y avait rien à justifier et expliquer. Et aujourd'hui, il est vraiment le paria de l'histoire états-unienne. Il est considéré comme l'homme qui a failli tuer l'Union. Et vraiment, pour n'importe quel président, y compris Trump, c'est vraiment la borne à ne jamais atteindre. Si on commence à vous comparer à Buchanan, eh bien, c'est que c'est vraiment un désastre politique.
Vous disiez qu'il était au fond unioniste. Qu'est-ce qu'il a fait pendant la guerre, par exemple? Pendant la guerre qu'il a donc quasiment lui-même déclenché d'une certaine façon.
Il est resté chez lui dans son village, dans lequel d'ailleurs il a disparu peu de temps après la fin de la guerre de sécession, en 1868. Il était déjà âgé, forcément, ses marges d'action étaient limitées. Mais non, il s'est retiré dans son village d'origine, et a essayé à intervalles réguliers, donc en particulier avec ce livre, de justifier son action, mais il avait été relégué aux marges de la nation.
Il y a une chose dans le récit qui est à la fois drôle et presque triste, c'est cette dernière phrase qu'il laisse à Lincoln en lui disant « Si vous êtes aussi heureux d'arriver que je le suis de repartir, c'est que vous êtes le plus heureux des hommes. » Dieu sait qu'il voulait partir, ce Buchanan.
Oui, il voulait partir, mais ce qui est intéressant dans la transition avec Lincoln, et ce qui peut nous apprendre aussi des choses pour aujourd'hui, c'est que il faut pas penser que Lincoln arrive en majesté et porteur de l'aura qu'il a aujourd'hui pour nous. Lincoln, c'est un homme qui a perdu l'élection sénatoriale de 1858, qu'on a évoqué dans le récit. C'est un homme qui gagne avec une minorité très faible, minorité du vote populaire, l'élection de 1860. Et qui n'est pas forcément vu comme un président très fort. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, on a tendance à avoir du mal à avoir la continuation après Trump. Que va-t-il se passer après Trump? L'opposition trouvera-t-elle un champion? Mais il faut bien rappeler que les champions, c'est l'histoire qui les forme, et que Buchanan, quand il reçoit Lincoln, il n'est pas très par cette formule, on le voit, il est peut-être pas forcément très optimiste sur ses chances de réussir, parce que souvent et Buchanan en est malheureusement la preuve inverse, c'est que la fonction révèle les hommes ou parfois elle les détruit.
Merci beaucoup, Corentin Célin. James Buchanan, désastre politique à la Maison Blanche. Un épisode à réécouter en podcast et sur le site de France Inter. Merci beaucoup à ceux qui ont prêté leur voix à ce récit. Merci à Philippe Pirard, à Simon Maisonob, à Eric Oswald et à Aurélien Labruyère. Et merci à Djoubaka, le programmateur musical de la série.